Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou qui sont diffusés en direct par l'ensemble de nos 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Aujourd'hui, le forum du Studio Kalangou a pour thème la langue des sourds, quel apport pour l'éducation des personnes déficientes auditives malentendantes au Niger. La loi numéro 92-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien stipule que l'éducation est un droit reconnu à tout citoyen nigérien sans distinction d'âge, de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Au Niger, les personnes handicapées représentent 4,2% de la population totale résidente, soit 715 497 personnes handicapées selon le recensement général de 2012, parmi lesquelles on dénombre environ 24 000 personnes sourdes. Aujourd'hui, pour certains parents, enfants sourds et malentendants, communiquer est un véritable challenge et cela constitue un blocage dans le suivi scolaire de leurs enfants, d'où la nécessité de mettre l'accent sur la langue des signes. Alors, quelle est l'importance de cette langue des signes dans l'éducation de ces élèves, de ces élèves déficients auditifs malentendants au Niger? À cette question et à bien d'autres, nous tenterons de trouver réponse au cours des 45 minutes à venir. Pour cela, nous sommes aujourd'hui au sein de l'école des sourds Hassan Banaba de Niamey et je suis avec M. Abdulkarim Abdoumadougou. Il est le directeur des programmes à la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Nous sommes également avec Harou Lawali. Il est le directeur du CEG Inclusif. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Madame Sidibé Fatou Aou, elle est spécialiste de l'éducation inclusive. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Monsieur Mamman Saadou, directeur de l'école des sourds Hassan Banaba. Bonsoir à vous.
Bonsoir, madame.
Et monsieur Habibou Abdoulaye, il est le président régional de la Fédération nationale des personnes handicapées. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Je suis donc Nafissa Adam Sirfou à la modération. Chers invités, merci donc de votre présence. Je commence donc avec vous, M. Abdulkarim Madoukou. Vous êtes le directeur des programmes à la Fédération nigérienne des personnes handicapées au Niger. Alors, comment se présente d'abord la situation des personnes handicapées en général et précisément celle des personnes sourdes et malentendantes du Niger?
Merci, madame. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous portez à cette question hautement importante. La situation des personnes handicapées, tout à l'heure vous avez rappelé que nous sommes estimés à 4,2% de la population totale. Mm-hmm. Ça, ce sont des données qui datent de 2012, le recensement général des personnes et de l'habitat. Mais il est important de rappeler que selon l'OMS et la Banque mondiale, les personnes handicapées représentent, selon un rapport publié le 3 décembre dernier, à peu près 16% de la population mondiale. Et ont-ils précisé, la plupart de ces personnes se trouvent dans les pays en voie de développement comme les nôtres.
Des chiffres qui ont évolué.
Les chiffres ont beaucoup évolué. Il y a le recensement général des personnes et de l'habitat qui se prépare pour cette année. Justement. Et en décembre prochain, Inch'Allah, nous saurons. Surtout que là, nous allons utiliser des outils beaucoup plus adaptés, mm-hmm. exactement les personnes handicapées, en tout cas de façon beaucoup plus juste, combien nous sommes. D'accord. Et les personnes handicapées, d'une manière générale, il est important de rappeler quelques 3 à 4 petits éléments, de façon très brève.
Oui, quels sont ces éléments?
Le premier élément, c'est qu'au Niger, la reconnaissance pleine et effective des droits de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour les personnes handicapées est quelque chose qui est absolu, qui est fondamentalement reconnu dans la constitution du Niger. L'article 22 qui parle de l'égalité des chances des personnes handicapées, l'État veille à l'égalité des chances des personnes handicapées. L'article 26, l'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination, y compris à l'égard des personnes handicapées. Nous avons ratifié aussi notre pays la Convention relative aux droits des personnes handicapées en juin 2008. Nous avons nous-mêmes adopté une loi interne, la loi 2019-62 du 10 décembre 2019, qui détermine les principes fondamentaux de l'insertion sociale des personnes handicapées. Et donc, il y a, en termes de textes et de lois, énormément de choses qui sont là, qui existent et qui garantissent aux personnes handicapées l'accès aux services publics, la jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Premier élément important. Deuxième élément, dans la pratique, il y a encore un fossé énorme à combler, il y a encore une montagne à gravir. C'est dans tous les domaines. Vous savez, il y a énormément de préjugés qui entourent le handicap. Dans certaines parties du pays, les personnes handicapées sont surprotégées. Donc, on leur fait tout. Elles n'ont le droit de faire rien du tout. Pas le droit d'aller à l'école parce que ce serait dangereux pour elles. Pas le droit d'avoir un métier parce que ce serait dangereux pour elles. Dans d'autres parties, elles sont sous-protégées, si je peux le dire, parce qu'elles sont souvent exploitées. Dans certaines parties de ce pays, avoir une personne handicapée, c'est une bénédiction. Non pas bénédiction sous l'angle compris par les uns et les autres, nos auditeurs peut-être, mais bénédiction dans le sens où c'est une source de revenus grâce à la mendicité. Et donc, il y a encore un monde à traverser entre les textes et la pratique. Maintenant, sur la question de l'éducation, pour aller rapidement. Juste quelques statistiques à rappeler. L'année dernière, selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, il publie chaque année un annuaire, l'annuaire statistique du ministère. Il y a moins de 10 000 enfants handicapés scolarisés partout au Niger dans les écoles primaires. Moins de 10 000.
Moins de 10 000.
Il y a plus de 96% des enfants handicapés qui sont hors école selon un rapport de l'UNICEF de 2019. Plus de 96%.
C'est énorme.
Au collège, ils sont encore beaucoup moins. Pourquoi ? À cause de toutes les difficultés qui seront évoquées sur ce plateau aujourd'hui, très peu d'entre nous, enfants handicapés, allons à l'école. Très peu d'entre nous. Et quand nous partons à l'école, très peu d'entre nous arrivons au collège. Et quand nous arrivons au collège, encore très peu de ceux qui sont arrivés au collège arrivent à finir le secondaire. C'est pour ça que, par exemple, c'est seulement en 2019 que nous avons eu, je pense, le tout premier bachelier sourd du Niger, en tout cas qui a suivi le cursus normal jusqu'en terminale, seulement en 2019. Donc, combien ? Presque une soixantaine d'années après que le Niger existe, que nous avons eu le tout premier. Donc, ces quelques informations vous montrent à quel point il y a encore énormément de choses à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a les lois, il y a les efforts qui sont faits. Il y a des écoles aujourd'hui spécialisées qui n'accueillent que des enfants handicapés. Dans le domaine du handicap auditif, nous sommes actuellement dans une école pionnière quand même.
Justement,
qui est
Hassan Banaba,
qui est une lanterne quand même, une sorte de phare dans la nuit pour les personnes sourdes. Et à côté de ça, maintenant, nous sommes en train de casser ce système. Sortir de l'école spécialisée où les enfants handicapés seront scolarisés eux seuls, dans une école exclusivement dédiée à eux. Ça, c'est dépassé, c'est discriminatoire. Pourquoi les enfants handicapés devront-ils étudier seuls entre eux? Pourquoi n'auront-ils pas la possibilité d'étudier avec les autres enfants? Et voilà pourquoi l'État et nous et les partenaires, nous sommes en train d'aller vers ce système appelé éducation inclusive, où les enfants handicapés, les enfants non handicapés, en tout cas les enfants tout court, quelle qu'en soit leur différence, sont scolarisés dans les mêmes écoles, dans les mêmes classes et suivent les mêmes programmes. Mais cela nécessite bien sûr des mesures, un certain nombre d'adaptations, parce que comme vous le savez, notre société en général n'est pas adaptée, n'est pas préparé pour les personnes handicapées. Quand nous ne construisons pas en tenant compte des personnes handicapées. Dans nos services publics, est-ce qu'il y a des rampes? Est-ce qu'il y a des couleurs contrastées?
Des accès?
Est-ce que donc, lorsque la société a construit ces bâtiments, elle n'a pas tenu compte de nous? Dans les préjugés et les croyances, aujourd'hui, il y a dans certaines contrées du Niger, on dit quand vous sortez de chez vous et que vous rencontrez une personne borgne, rentrez chez vous. Sinon, si vous continuez, votre journée sera mauvaise. Ou bien, où il est très difficile aujourd'hui, n'eût été ces dernières années, Dieu merci, de voir une femme sourde, par exemple, ou un monsieur sourd épouser une personne qui n'a pas de handicap. Maintenant, c'est en train d'évoluer positivement. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de préjugés. La société, en évoluant, n'a pas intégré dans son logiciel, dans son mode de fonctionnement, l'inclusion des personnes handicapées. Alors, cela se transpose dans le système éducatif, où les spécialistes ici réunis vont vous dire concrètement c'est quoi. Mais le système éducatif n'est pas suffisamment préparé pour accueillir les enfants sourds
à l'école et pourtant ils sont des enfants du Niger, des enfants de la patrie. Ils méritent d'étudier au même titre que les autres. Mm-hmm. Et surtout que ne pas les étudier, ne pas les éduquer, autant pour moi, c'est un gâchis pour nous. Mm-hmm. Il y a extrêmement peu d'enfants sourds qui vont à l'école. La plupart d'entre eux ne vont pas à l'école. Donc la plupart sont dans les maisons cachées. La plupart sont dans les rues aérées. La plupart sont ailleurs, en tout cas pas à l'école. Il y a très peu d'entre eux qui sont là. Et ceux qui y sont aussi, nous avons encore beaucoup de craintes sur leur éducation parce que, comme je l'ai dit, le système n'est pas préparé.
Le défi donc est énorme face à cette situation des élèves handicapés ici au Niger. Merci de votre intervention, M. Abdoul Karim.
Merci.
Je rappelle que vous êtes le directeur des programmes à la Fédération nigérienne des personnes handicapées du Niger. Nous poursuivons donc cette émission. Nous sommes avec le directeur de l'école Hassan Ba, l'école des sourds de Niamey. M. Mamman Sadou, alors présentez-nous brièvement cet établissement.
Donc, merci madame. Donc, c'est une école qui fut créée le 1er janvier donc 1981. Et qui a ouvert ses portes donc la même date. À l'époque, c'était une dizaine d'élèves, l'effectif total donc de l'école, c'était une dizaine d'élèves. Donc progressivement, avec le temps, j'allais dire donc à la date d'aujourd'hui même.
Oui, justement.
Donc nous sommes à 181 élèves.
181 élèves.
Filles et garçons confondus. Qui dit formation donc doit également parler de, comment on appelle ça, et difficultés. Il y a aussi des difficultés.
Justement, avant d'arriver à ces difficultés, quels sont les types d'enseignements qui sont donnés ici? Est-ce que l'enseignement est basé sur le programme normal ou bien il est différent?
Bon, le programme est basé sur le programme normal parce que normalement, nous devrons avoir notre propre programme. Très malheureusement, ce qu'on fait au niveau des écoles traditionnelles, c'est ce que nous faisons ici. Mais il y a quelques différences, c'est seulement en langue des signes. Nous signons, et de l'autre côté, c'est le traditionnel. Sinon, vraiment, c'est la même chose. Et nous travaillons aussi avec les images. C'est vrai, c'est la même chose au niveau des écoles traditionnelles, mais nous travaillons avec les images pour mieux concrétiser nos signes.
Comment se fait l'apprentissage avec ces langues de signes?
L'apprentissage? Bon, et comme je disais tantôt, donc c'est le même type, j'ai dit, d'enseignement qu'au traditionnel. Donc, nous avons du CI au CM2. Tous les niveaux, on en a. Et on fait histoire, géographie. Bon, si vous voulez, toutes les matières qu'on enseigne au niveau du traditionnel.
Le programme général,
c'est le même programme, voilà. Oui. Mais seulement, avec notre jargon de langue des signes, là, il y a pas mal de difficultés. Oui. Donc,
Est-ce que vous avez des enseignants spécialisés en langue de signes ici?
Oh, malheureusement, on n'a pas des enseignants spécialisés parce que parmi nous, à la date d'aujourd'hui, personne n'a été ailleurs, en Europe ou aux États-Unis pour être formé. Nous avons reçu des petites formations séquentielles
à l'interne.
Voilà, à l'interne.
Voilà.
Oui. Même le directeur qui était décédé et puis à son âme, donc n'a pas été formé.
Donc il y a un besoin réel.
Il y a un besoin réel de formation. Il y a un besoin réel de formation.
Parce que normalement, spécialisé.
Oui, on devrait avoir une équipe pluridisciplinaire. Donc, très malheureusement, avec cette nouvelle donne-là, l'inclusion, donc on a tendance à nous banaliser, je ne sais pas. Voilà.
D'accord. Nous allons revenir vers vous, le temps de donner donc la parole aux autres invités. Monsieur Harou Lawali, vous êtes le directeur du CEG inclusif. Présentez-nous votre CEG également.
Le CEG inclusif, comme son nom l'indique, regroupe à la fois les élèves malentendants pour le moment et les élèves entendants. Mais il est censé accueillir tous les types d'handicap. Pour la petite histoire, la création du CEG inclusif date de 7 janvier 2020. Mais l'ouverture n'a eu lieu que le 30 novembre 2020. Donc de là, déjà vous sentez que il y a quelque chose qui grince. Nous avons débuté avec deux niveaux.
Lesquels?
Sixième, cinquième, que nous avons pris, je dirais, nous avons fait ponction au niveau de l'école intégratrice du CG11, donc où les sourds, juste après le CM2, ils étaient orientés au CG11. Donc après la création, il fallait les amener petit à petit vers le CG inclusif. Et il y avait des élèves, certes, en troisième, mais nous ne pouvons pas, pour un début, commencer avec les grandes classes. Nous avons préféré prendre deux classes, donc les deux niveaux, sixième, cinquième, pour commencer avec eux. Et Dieu merci, aujourd'hui, les élèves qui étaient en cinquième sont arrivés jusqu'en classe de troisième. Ils ont fait l'examen du BEPC cette année. Malgré toutes les difficultés, Dieu merci, sur 31 candidats présentés, nous avons eu 9.
Mais comment se fait, je ne sais pas, la collaboration, l'enseignement avec ces personnes, ces élèves, entendants et malentendants? Comment ça se passe sur le terrain?
Oui, normalement, si le cadre est bien préparé, c'est quelque chose qui est très simple. Donc, c'est comme lorsque je parle et je gesticule. Et c'est très simple, c'est aisé même si on a la formation. Seulement, notre problème ici, nous n'avons pas des enseignants qualifiés.
Qualifiés, c'est le problème.
Donc, tous ceux qui sont là ont appris sur le terrain. Donc, au jour le jour. Et cela dépend. Tout cela dépend de la détermination, c'est-à-dire de la vocation de l'enseignant.
D'accord.
Il y a ceux qui sont là des années durant, mais je vous assure, ils n'ont pas encore appris grand-chose.
Malheureusement, oui.
Oui. Mais il y a ceux qui sont encore arrivés un peu de temps, et vous sentez en eux vraiment qu'ils sont là pour ceux qui sont venus faire.
D'accord. Madame Sidibé Fatou Aou, vous êtes spécialiste de l'éducation inclusive. Nous parlons donc de l'éducation des enfants malentendants, sourds, l'apport de la langue des signes dans cette éducation. Vous avez entendu l'intervention de vos prédécesseurs. Que pensez-vous vraiment de la situation des élèves sourds et malentendants ici au Niger, la situation de l'éducation?
Ok, merci de m'avoir donné la parole. Et j'ai été la première responsable du ministère de l'Éducation par rapport à la question de l'inclusion. J'ai fait partie des pionniers de l'éducation inclusive.
Voilà.
Et je vous ai dit, et je voudrais tout simplement vous dire que nous avons osé. Au début, quand on parlait de ça au niveau du ministère, on disait que c'était utopique. Souvent, on me prenait, moi, la première responsable, comme une malade mentale qui ne savait pas ce qu'elle voulait, qui voulait embarquer les gens dans une situation peut-être qui allait nous conduire tous au naufrage. Mais heureusement pour nous, et on a persévéré. Et aujourd'hui, la réalité est là. On a pu, en tout cas, créer des écoles intégrées avec des classes intégratrices pour sourds et au niveau de pour élèves sourds plutôt et à ce niveau-là actuellement le seul moyen de communication pour ces enfants c'est la langue des signes. Et cette langue de signes, il y a un problème à ce niveau-là. C'est vrai, comme ils l'ont dit, la formation n'est pas suffisante et même la plupart de ceux qu'on a formés. Et le capital est maintenant vieillissant.
Voilà,
les gens sont
partis
à l'aide. Il faut renouveler et ça tarde à se faire. Et moi, je pense que pour résoudre ce problème de formation, parce que tant qu'on ne va pas résoudre ce problème-là, les enseignants, s'ils ne maîtrisent pas la langue de signes, comment ils vont communiquer avec les enfants? Il y aura un problème communicationnel à ce niveau-là. Maintenant, nous avons des écoles de formation des enseignants. Il y a les écoles normales d'instituteurs.
On devrait...
Et voilà, l'ENES. Au niveau de l'enseignement supérieur, où on forme les encadreurs, les enseignants du secondaire et même leurs encadreurs pédagogiques. C'est à ce niveau-là que je crois qu'il faut introduire le module de l'éducation inclusive dans les programmes.
Langue des signes.
La langue des signes.
Voilà.
Et ça a été fait dans des écoles normales
ici
pilotes au Niger. Mais malheureusement, ça s'est arrêté au primaire. On n'a pas mis ça à échelle aujourd'hui. ça a pris du temps. Mmh. Et au niveau de l'ENS, il y a un autre problème parce que dans leur programme, ça n'y est même pas. Mmh. Moi, par exemple, j'enseigne là-bas, mais j'enseigne les inspecteurs principaux de l'éducation. Mmh. Alors que, c'est vrai, eux aussi, ils doivent être dans le bain, mais les enseignants qui tiennent les élèves, les professeurs des collèges, des lycées, et leurs encadreurs pédagogiques doivent être formés.
Voilà.
Parce que s'ils sortent les encadreurs pédagogiques, ils se retrouvent sur le terrain avec des enseignants qui ont été formés dans les ENI et que eux qui sont censés les encadrer ne sont, pas,
sont formés.
Il y a un déphasage.
Ça revient à zéro.
Oui. Ça devient un problème d'encadrement.
Voilà,
se pose.
Voilà.
Et dans les écoles, s'il n'y a pas l'encadrement, ça veut dire que c'est du laisser aller, chacun c'est de la débrouillardise. Mmh. Et l'éducation, ce n'est pas comme j'ai dit, ce n'est pas du charlatanisme où tu dois venir jeter tes courriers et décider. Mmh. Il faut que tu aies un bagage pédagogique important pour pouvoir transmettre ces connaissances-là.
D'accord.
Et les enseignants ont ce problème en langue de signes. C'est vrai, le ministère se débrouille avec ses partenaires pour faire des formations en langue de signes. Mm-hmm. Mais des formations en langue de signes de 5 jours, 10 jours,
c'est
ça
pas
ne
évident.
Peut pas suffire.
Ça ne peut pas suffire
pour
encadrer des élèves
voilà.
Toute une année.
Il faut aussi non seulement la formation initiale dans les ENI, mm-hmm. et il faut la formation continue sur le terrain.
D'accord.
Il faut que les enseignants soient... Parce que la langue, elle est vivante.
Vraiment.
Plus tu la pratiques, plus tu la maîtrises, plus tu peux communiquer avec ton élève.
Voilà.
Mais quand tu n'as pas cette capacité-là, je pense que c'est un problème très délicat qu'il faut voir. Vraiment, ça se pose.
Beaucoup de problèmes donc liés à cette langue des signes, surtout avec le manque d'enseignants qualifiés dans les établissements pour sourds. Monsieur Habibou, vous êtes le président régional de la Fédération pour personnes handicapées. Que pensez-vous, que dire vraiment sur cette situation?
Effectivement, madame, bonsoir, merci beaucoup. Vraiment, c'est la réalité des choses sur le terrain. Nous, on les voit chaque jour et on cherche des solutions en tant que Fédération Nigérienne des Personnes Handicapées. La SN est l'un des créateurs de cette fédération. Donc c'est pour cela que nous sommes là pour promouvoir et protéger et défendre les droits de ces personnes handicapées-là. Donc on a initié avec un consortium un projet appelé Tous Ensemble pour l'inclusion. Donc c'est un projet financé par l'Agence norvégienne de développement. Donc ici, nous avons à travers Fondation Strom aussi de la région de Niamey mis en œuvre un système. C'est un système d'éducation stratégie accélérée qui est là. C'est le centre SSAP. Donc c'est un centre qui a été créé ici au niveau de la région de Niamey grâce à ces consortiums-là, ADRA Fondation Strom et Plan. Donc dans le programme de Fondation Strom qui intervient ici dans la région de Niamey, donc on a mis en œuvre ces SSAP là. Donc l'objectif de ça, pourquoi, c'est pour essayer de prendre en charge ou bien de chercher ces enfants là déscolarisés qui sont à l'âge de 12 ans, parce que la plupart de ces élèves, dès qu'ils partent au niveau des primaires, qu'ils quittent primaire, au niveau des secondaires, ils abandonnent. Donc nous, on fait en sorte que pour faire la promotion, pour défendre ces droits, on fait en sorte que vraiment de les rendre, d'identifier pour essayer de toucher ces centres-là, pour les mettre en...
Selon vous, quels sont vraiment les vrais défis qui sont liés autour de l'utilisation du langage des signes pour les élèves sourds et malentendants?
Oui, les vrais défis, vous avez déjà dit ici tout de suite, en sillonnant les intervenants, c'est vraiment de renforcer la capacité, c'est-à-dire d'avoir des enseignants qualifiés, vraiment. Vraiment, et la formation des interprètes internationaux, d'amener ces interprètes-là au niveau des États-Unis, au niveau là où vraiment on fait les former, pour qu'ils puissent venir aussi vraiment essayer de gonfler ces vides qu'on n'a pas.
D'accord.
Voilà.
Alors, monsieur le directeur de l'école Hassan Banaba, monsieur Mohamed Sadou, l'école Hassan Banaba n'est pas la seule école pour sourds au Niger.
Oui, effectivement, madame, c'est bien ça. Donc, l'association, lorsqu'elle a créé, donc, en premier lieu, donc, l'école pour sourds de Niamey, elle a en 80, donc, elle a continué à Maradi pour créer une autre école, donc, en 82. Et en 83, donc elle a créé encore également une autre école à Zender. Donc voilà les trois écoles dont elle a créé. Mm-hmm.
Et quelles sont vraiment les vraies difficultés auxquelles vous faites face vraiment dans l'enseignement de ces enfants sourds sur le terrain?
Oui, donc...
Outre l'aspect du manque d'enseignants qualifiés,
oui,
en langue de signes.
C'est toujours les difficultés, parce que tant que l'enseignant n'est pas bien formé, donc il ne peut pas faire son travail, c'est ça. Et ce travail-là va se répercuter sur les élèves, voilà, c'est ça le gros problème.
Et la relation avec les parents même de ces enfants, aucune difficulté?
Il y a des difficultés aussi, voilà. Parce que à la maison, il y a un problème de communication.
Voilà.
Ils n'arrivent pas à se communiquer entre eux. Donc, ces élèves-là, quand ils viennent à l'école, ils se sentent mieux chez eux ici
qu'à la maison. Oui.
Voilà. L'enfant, une fois inscrit, il va se sentir mieux ici.
Mieux ici que voilà. Chez lui.
Et on a vu même des enfants qui ne mangeaient pas là-bas chez eux. Ils disent non, ici, ils vont manger. Et ça va.
Mais est-ce que vous ne bénéficiez d'aucun appui des autorités, des PTF pour...
Oh, si, on a des partenaires. On a beaucoup de partenaires. Ils font de leur mieux. Mais malheureusement, ce n'est pas encore suffisant.
Ce n'est pas suffisant. Alors, Monsieur Harou Lawali, de votre côté, au CG Inclusif, est-ce les mêmes difficultés que vous rencontrez?
Oui. Moi, je dirais que nos difficultés sont encore plus... plus cuisante chez nous qu'au primaire. Certes, au niveau du primaire, à tous les niveaux, toutes les classes, les enseignantes, parce que c'est un enseignant par classe, sont au moins un peu mieux placées ou mieux aguerries pour enseigner la langue des signes. Parce qu'une fois que tu pratiques la langue des signes un an, en tout cas, sans interruption, tu gagnes beaucoup de choses. Tu gagnes beaucoup de terrain. Mais chez nous, par exemple, vous avez un enseignant qui est affecté. Il n'a jamais connu les ABC en langue des signes. Il vient, il atterrit en classe. Il faut qu'il apprenne. Et il y en a plein, puisqu'il y a plusieurs matières. Donc, ceux qui ont commencé à apprendre un peu, on les affecte ailleurs. Vous voyez, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Et en dehors de cela, lorsque les enfants rentrent à la maison, même s'ils ont des leçons à apprendre, les parents ne peuvent pas les aider.
Les aider, malheureusement.
Malheureusement. Les parents n'arrivent pas à les aider. Et ils sont obligés de rester ici avec leurs amis. Et deux fois, avec un peu... Et ce que nous avons un peu encouragé le système de tutorat, ils sont avec des entendants qui, eux, qui suivent les cours et qui, par la suite, leur réexpliquent. Ce qui n'est pas toujours garanti. La compréhension n'est pas toujours garantie, même avec les entendants.
Effectivement.
Donc, mais Dieu merci, on essaie de s'adapter avec les parents, les élèves, les enseignants.
Mais
pour
vous,
faire un peu plus.
Oui, merci, Monsieur Habibou. Au niveau donc de la fédération régionale, qu'est-ce que vous faites pour changer cette donne? Si, comme l'a dit le directeur du CG Inclusif, il y a un fossé, si on peut le dire, entre parents et élèves, parce qu'ils n'arrivent pas à bien se comprendre, car la langue des signes n'est pas bien maîtrisée par ses parents. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer cette situation?
Au niveau de la région, c'est de toucher des partenaires pour pouvoir financer, avoir des financements pour essayer de former les parents. Et si l'année passée, on a eu à faire, et on a eu à toucher jusqu'à 180 parents qui sont venus ici pour faire la formation. Mais c'est ce que notre formatrice est là devant nous. Et ce qu'elle a dit toujours, c'est vrai. Et deux ou trois jours de formation. On ne peut pas dire que c'est des formations. Donc c'est comme ça. Il faut avoir vraiment, c'est de permettre d'avoir des partenaires qui peuvent financer une formation d'un mois ou deux mois comme ça. Mais c'est ça que nous sommes en train de voir par exemple avec HI ou CVM qui sont en train de faire des efforts pour essayer de combler ces vides-là.
Merci bien. Voilà. Madame Sidibé, selon vous, quelle est la situation de l'inclusion de ces enfants sourds malentendants ici au Niger?
je vais vous dire en toute honnêteté, si vous prenez, l'éducation des enfants sourds au Niger, et ça pétine toujours. Et le nombre d'enfants qui sortent de ces écoles et qui arrivent à aller au collège, aller au lycée, aller à l'université, ça se compte par compte, ça sort par compte-gouttes. Mm-hmm. Et ça, c'est pas une bonne chose. Je pense que il y a un problème. J'ai écouté le président tout à l'heure de Niamey dire que il faut qu'on cherche les partenaires, certes, doivent nous aider, mais l'éducation, c'est du ressort de l'État. L'État est le premier mandataire de l'éducation au Niger. C'est lui qui porte le chapeau. Et si l'État ne n'investit pas dans ce domaine-là, je pense que ce n'est pas les partenaires qui pourront tout faire pour nous. Les partenaires accompagnent l'État. Il faut que l'État d'abord prenne la chose à bras le cœur pour que les autres viennent l'appuyer. Et je pense que la formation qu'on est en train de faire dans les ENI, il faut d'abord capitaliser les bonnes expériences et mettre à échelle ce qu'on a eu à faire et qui a donné. Maintenant, il faut se battre aussi pour que, au niveau de l'ENES, les encadreurs soient formés. Et les parents aussi, il faut les accompagner parce que la guidance parentale est
effectivement,
là.
Effectivement.
Il faut une guidance parentale. Il faut les activités pratiques de la vie courante. Il faut que l'enfant se sente aimé et appuyé en famille. On dit souvent que les parents disent, nous, on n'est pas lettrés, on ne peut pas. Mais il y a des choses très pratiques qu'on peut apprendre aux parents dans le cadre de la guidance parentale qui peut amener les parents à accompagner leurs enfants à la maison, à venir à l'école, essayer de fournir des informations aux enseignants parce que c'est eux qui ont vu leur enfant naître, grandir. Ils connaissent les besoins réels de l'enfant. Si vous, quel que soit le type de handicap, que ce soit la surdité ou la cécité ou même le handicap intellectuel, obligatoirement, il faut une collaboration stricte avec les parents pour pouvoir résoudre le problème.
D'accord.
Et je pense qu'il y a ça aussi. Et il faudrait aussi du matériel spécialisé pour ces enfants-là. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont là. Il y a des manières archaïques aujourd'hui d'enseigner dans nos pays africains qui sont dépassées. Et je crois qu'aujourd'hui, l'État doit former aussi les enseignants à l'utilisation avec leurs enfants de ces nouvelles techniques de communication pour les amener vraiment à être à la hauteur de la chose.
Justement, nous avons sur le plateau les directeurs des différents établissements. Vous, le directeur de l'école Hassan Ba, sur le terrain, de quoi ces élèves auront besoin pour un meilleur enseignement?
Donc, sur le terrain, comme vous le dites, les enfants ont besoin des enseignants donc qui sont qualifiés.
En premier, oui.
Voilà, en premier lieu. Et des, comment on appelle ça, la documentation. La documentation. Parce que, je vous ai dit, ce que nous utilisons, comment on appelle ça, au niveau des traditionnels, ce qu'on utilise au niveau des traditionnels, c'est avec ça que nous aussi nous travaillons. Donc, normalement, j'ai dit, on devrait avoir nos propres documents.
Donc ces enfants ont des difficultés avec cet enseignement général.
J'allais dire.
Ils ont des difficultés avec cet enseignement général.
Oui, il y a des difficultés parce que il y a certaines images qui ne cadrent pas avec la réalité. C'est des anciennes images. Il faut vraiment les restaurer, les actualiser quoi.
Justement, donc, pour promouvoir l'utilisation donc, de la langue des signes en milieu scolaire pour les élèves sourds, depuis 2016 est mis en œuvre le programme Voice qui, sans me tromper, vise donc à promouvoir l'enseignement par les langues des signes. Et c'est l'association des sourds du Niger qui a pu bénéficier d'une subvention d'autonomisation du programme pour mettre en œuvre la première phase du projet. Parlons avec nommé. Avec, alors vous, monsieur Habibou, que dire vraiment sur cette initiative? Elle est à saluer?
Vraiment, c'est une bonne initiative qu'ils ont eu à avoir cette subvention. Présentement, ils sont dans la deuxième phase. Donc, en dehors même des personnes sourdes et malentendantes, il y avait d'autres personnes handicapées qui ont bénéficié toujours de cette et West, cette ONG qui sont en train d'octroi de subventions. Mm-hmm. Donc c'est une bonne chose parce que vous êtes présentement, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont prévu des enseignants et des formations en langue des signes. Mm-hmm. Ils ont aussi encore prévu d'octroi d'extrait de naissance. Donc vous voyez, donc vraiment c'est une subvention qui va permettre encore de promouvoir les droits des personnes handicapées.
Monsieur Harou, le directeur du CEG inclusif, que deviennent les élèves après leur scolarité?
Bonne question. Mm-hmm. Puisque même si vous n'avez pas posé cette question, ça me grattait. notre souci effectivement c'est après le collège.
Voilà.
Le souci de ceux qui enseignent au primaire, c'est après le primaire. Avant, eux, ils ont eu une solution. Maintenant, il y a le collège.
Le CEG inclusif, oui.
Et c'est le seul, c'est vrai, pour la sous-région en termes de collège public. Il y en a des privés dans les autres pays. Mais nous avons la chance d'avoir un collège inclusif public. Mais le problème qui se pose, c'est après le BEPC. Les études post-BEPC, rien que l'année passée, ceux qui ont fait le CEG 11, qui ont réussi, ils étaient orientés au lycée.
Lycée
d'enseignement général. D'autres à Isabéry. Malheureusement, tous les deux cadres ont jugé qu'ils n'ont pas le système de la prise en charge de ces enfants.
Alors, ils deviennent quoi
alors? C'est ça la question. Mm-hmm. Donc, et c'est ça qui intrigue, en tout cas nous chez nous, c'est ça qui intrigue. Mm-hmm. Quand on pleurniche qu'on n'a pas d'enseignant à ce niveau, donc il faut obligatoirement ces enfants-là les orienter vers un centre de formation professionnelle.
Mm-hmm. C'est partout, à Maradi, à Zendere et à Niamey. On a formé des professeurs itinérants, ils sont partis. Parce qu'il n'y a pas un mécanisme de maintien dans les écoles.
Voilà.
Par exemple, au niveau primaire, qu'est-ce que nous on faisait à l'époque? Les enseignants signaient des engagements quinquennaux, mm-hmm, renouvelables une fois.
D'accord.
Mais si tu veux, tu peux continuer. Et là, tu es protégé, l'inspecteur ne peut pas t'affecter quand tu ne veux pas. Et toi, même si une femme suit son mari ou bien quelqu'un admet à un concours, s'il va dans une autre région, on peut l'affecter là où on a nos structures éducatives.
Mm-hmm.
Et comme les enseignants bénéficiaient de formation, en tout cas, eux-mêmes, personne ne voulait partir.
Mm-hmm.
Et c'est comme ça qu'on a gardé au niveau primaire.
Mm-hmm.
Mais au niveau secondaire, on ne sait plus où ils sont.
D'accord.
Il n'y a pas eu de suivi. Même leurs encadreurs pédagogiques ont été formés pendant 45 jours. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont et qu'est-ce qu'ils sont devenus.
Merci.
Donc, c'est ça le problème.
Le temps est contre nous, M. Habibou Abdoulaye. Comment mieux vraiment accompagner ces jeunes élèves déficients auditifs à poursuivre normalement leur cursus académique au même titre que les autres enfants pour terminer?
Oui, tout ça, là, que vous voyez, on est là, on a tout parlé des difficultés, des problèmes. Tout ça, c'est l'État. L'État doit prendre ses responsabilités.
Malheureusement, l'État n'est pas présent aujourd'hui.
Oui, parce que vraiment, c'est vraiment, ça fait mal. Ça fait mal, tu vois des enfants qui ont le courage, qui veulent cette éducation-là. Mais vraiment, on n'a pas créé les conditions qu'ils puissent participer, qu'ils puissent vraiment réussir dans cette éducation-là. Donc, tout ce qu'on est là en train de faire, ce que les partenaires sont en train de faire, c'est juste un appui.
Il faut que l'État
vraiment fasse beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est quoi? C'est former des enseignants qui sont qualifiés vraiment à prendre en charge ces enfants-là. C'est former des interprètes. Présentement, nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons des partenaires, beaucoup de partenaires. Si on a des formations, on n'a pas de vrais formateurs, interprètes qui peuvent vraiment passer l'information. Nous avons des droits des personnes handicapées qui sont en train de, chaque fois nous faisons des formations sur la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Mmh, mmh, mmh.
Mais peu de volontaires, qu'on a que un ou deux, trois qui sont des volontaires qui sont là, des carcassés pour vraiment faire comprendre aux personnes sur les malentendants,
mmh, mmh,
la convention.
Mmh, mmh.
Vous voyez?
D'accord.
Donc
merci.
Vraiment, les grands problèmes, c'est l'État. L'État doit investir dans l'éducation. L'État doit investir vraiment avoir des formateurs qualifiés, des enseignants qualifiés pour essayer vraiment de surmonter ces problèmes-là.
Merci bien. Alors, M. Harou, de votre côté, quel est votre dernier mot?
Je dirais qu'on parle toujours de l'État. Bon, rendons hommage quand même à Rimamba.
Pour la contribution de tout un chacun.
Oui, à Rimamba qui a, en tout cas, qui a beaucoup fait pour la, pour que le collège inclusif voit le jour. Et je vous dis, à part les enseignants et la CREE, je vous dis, à part des traces de l'État au CG inclusif. 3 ans, je vous dis, je suis dans une bouteille là-bas.
Vous ne faites pas de plaidoyer?
Si. Est-ce qu'on est écouté? Oui, moi je dis que l'État est absent. Franchement, l'État est absent.
Malheureusement, l'État revient toujours sur les...
Et au niveau de l'éducation de la personne handicapée, sourde, vraiment, je vous dis que il y a un adage qui dit le sourd peut tout faire sauf entendre. Ils sont motivés, ils sont déterminés à apprendre. Mais c'est le cadre, vraiment pour le moment, c'est le cadre qui manque, je vous dis. Parce que cette année, je vous dis, parmi nos admis, les 4 sont des... Nous avons 6 admis à l'écrit, les 4 sont des malentendants au BEPC. Les 4 sont des malentendants.
Quelle sera la suite pour eux?
Et c'est de cela qu'on parlait tout à l'heure, c'est de faire le plaidoyer, voir avec l'idée de Fatou, avec les enseignants itinérants qui peuvent poursuivre leurs études au lycée.
Rapidement, avant de clôturer l'année dernière, je pense bien, vous avez eu un premier bachelier sourd malentendant. Qu'est-il devenu aujourd'hui?
Il étudie au IAB, donc Abdoulaye est là pour... Ils sont 2.
Voilà.
Ah, ils sont maintenant 4.
Donc c'est une avancée.
Jubo. Sur... Ah, voilà.
D'accord. Donc aujourd'hui il étudie dans une université.
Voilà. De la place, mais privée, je crois. Oui.
Merci bien. Alors, monsieur le directeur de l'école Hassan Ba, vous, pour terminer, quel est votre dernier mot?
Mon dernier mot est tous ici présents. Donc, nous avons mis sur tapis toutes les difficultés. Donc, j'aimerais à ce que l'État prennent en compte toutes ces difficultés-là. Parce qu'on n'a pas, on s'est dit qu'on n'a pas des interprètes. Voilà. On n'a pas des interprètes. Quant à la formation, donc, et nous voudrions que ça soit continu, donc, et à tous les niveaux.
Merci bien, chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangu. Ici prend fin ce forum. Merci donc à nos invités et il ressort des interventions de nos invités que moins de 10 000 enfants handicapés vont à l'école et l'inclusion de ces derniers demeure un problème. À l'État donc de garantir ou de veiller à la mise en place des écoles de formation pour des enseignants en langue de signes pour permettre un meilleur enseignement à ces enfants malentendants sourds du Niger. Merci donc à nos invités. Nous étions en compagnie de M. Abdelkarim Abdoumadoukou. Il est le directeur des programmes à la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Harou Lawali, directeur du CG Inclusif. Nous étions également en compagnie de Mme Sidibé Fatou Aou, elle est spécialiste de l'éducation inclusive, M. Maman Sadou, directeur de l'école des sourds Hassan Banaba de Niamey, et enfin M. Habibou Abdou, il est le président régional de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. À la modération, je suis Nafisa Adam Sirfo. La technique est assurée par Abdelkader Chambiano. À très bientôt sur le studio Kalangu. Au revoir.